L'Église est le corps du Christ, dit-on. C'est tout au moins ce que l'on enseigne, ce que l'on entend dire un petit peu partout dans le christianisme, ici ou là. Et pourtant, cette affirmation ne me plaît pas tellement. J'ai un recul par rapport à cette affirmation parce que trop souvent, cette idée est utilisée pour imposer une unité artificielle à l'Église et pour dire que l'Église doit être comme un corps bien défini, bien délimité, bien organisé. Et c'est à partir de cette affirmation de Paul que l'on légitime un certain pouvoir en son sein. Et donc, bref, tout cela attire assez peu ma sympathie. Et puis, par ailleurs, je dois dire qu'en tant que protestant, je n'ai pas une conception très importante de l'Église. Pour reprendre ce mot de Loisy, Alfred Loisy, au début du siècle, ce grand apôtre du modernisme, avait dit, dans un contexte différent, mais peu importe, a dit « Le Christ a annoncé le royaume de Dieu et c'est l'Église qui est venue ». Pour critiquer justement cette notion d'Église qui était totalement indifférente à la pensée du Christ. Le Christ ne s'est jamais préoccupé d'instituer une Église. Il ne s'est jamais préoccupé de hiérarchie, de l'institution, du sacerdoce, des sacrements, des rites, de la discipline ou du droit canon. Ce n'était pas son problème. Ce que le Christ a prêché, c'est le royaume de Dieu, c'est-à-dire c'est l'amour, c'est le pardon, c'est la foi. C'est une façon d'être, une façon de vivre en rapport avec la grâce de Dieu. Et donc le Christ ne s'est absolument pas préoccupé de l'Église en tant qu'institution et je ne vois pas très bien comment on pourrait avoir la malhonnêteté, je dirais, d'utiliser cette affirmation de Paul dans le 12e chapitre de sa lettre aux Corinthiens quand il dit que l'Église est le corps du Christ pour légitimer une institution, je crois, purement humaine. Je pense que quand Paul dit « Vous êtes le corps du Christ », j'ai plutôt la tentation ou la tendance de le comprendre individuellement. Et donc non pas pour valoriser l'Église en tant que telle, mais plutôt pour dire que chacun est le corps du Christ, que chacun doit être en quelque sorte le remplaçant, le lieutenant du Christ dans ce monde. En effet, le corps dans la Bible, c'est ce qui sert à agir, c'est ce qui sert à être dans le monde. Et si nous sommes le corps du Christ, c'est que chacun de nous, nous devons être la présence du Christ dans ce monde. Nous devons agir comme lui aurait agi, parler comme lui aurait parlé, aimer comme lui a aimé, guérir et aider comme lui l'a toujours fait. Et donc oui, certainement, nous devons être les bras du Christ, nous devons être ses mains, nous devons être sa bouche et sa parole dans ce monde. Et là s'opposent, je dirais, deux conceptions possibles. L'une collectiviste et l'autre individualiste. La conception collectiviste consiste à dire c'est l'Église dans son ensemble qui est le corps du Christ. Et par conséquent, c'est l'ensemble de la communauté qui doit instituer dans ce monde le mode de présence du Christ parmi les hommes. Et du coup, si on considère que c'est la communauté dans son ensemble qui est le corps du Christ, alors cela peut légitimer le fait que chacun puisse avoir des rôles relativement complémentaires. Autrement dit, qu'il est tout à fait possible que l'un passe son temps à prier sans rien faire et qu'un autre agisse sans prier, puisque finalement ils se complètent l'un et l'autre. Et alors que je pense au contraire que nous ne pouvons pas compter sur les autres pour faire ce que nous ne faisons pas ou ce que nous ne voulons pas faire. Je crois au contraire que chaque chrétien doit être l'ensemble du corps du Christ, c'est-à-dire que chaque chrétien doit prier et agir. Et qu'on ne peut pas spécialiser comme ça les êtres humains en disant que l'un peut faire qu'une chose et l'autre n'en faire qu'une autre. De même, je suis assez content que dans mon Église, les pasteurs aient le droit de se marier, justement pour dire qu'il n'y a pas des spécialistes de la religion qui sont des spécialistes de la prédication, de la foi et de la prière, et que cela serait incompatible avec le rôle de père de famille. mais dont on pourrait dire que ça n'est pas grave, puisqu'il y a de toute façon des hommes qui jouent les pères de famille. Et donc il y a des pères de famille qui font des enfants, et il y a des hommes de Dieu qui prient et qui lisent la Bible, comme si l'un pouvait justifier la présence de l'autre. Mais je crois au contraire que chacun doit avoir la vocation à la fois d'agir et de prier, et à la fois d'être inséré dans le monde, et en même temps de rechercher Dieu. Et donc, vous êtes le corps du Christ, je l'entends comme une exhortation individuelle, en disant chacun de vous, individuellement, vous devez vous considérer comme ayant cette responsabilité d'être le mode de présence du Christ, et c'est par vous que le Christ agit, et vous devez donc essayer d'être son mode de présence dans le monde. Cela me semble assez juste, mais néanmoins, j'ai un problème. Le problème, c'est que je pense que, de toute façon, Paul dit le contraire. C'est-à-dire que la vision de Paul, en 1 Corinthiens 12, est très fondamentalement collectiviste. En effet, il insiste sur le fait que le corps du Christ, c'est l'ensemble de la communauté, c'est ce qu'il appelle l'Église, et que dans cette Église, nous sommes chacun de nous des membres. Et il insiste sur le fait que ces membres ont chacun un rôle, c'est-à-dire qu'il y a l'œil, il y a le bras, il y a le nez, la bouche, la tête, les jambes, et que chacun a son rôle, chaque membre a un rôle, et que par conséquent, apparemment, d'après Paul, il y a une sorte quand même de cette complémentarité que je rejetais d'une certaine façon, semble être présente dans le texte. Mais néanmoins, il ne faut pas aller trop vite. Parce que d'abord, il faut remettre les choses dans leur contexte et comprendre que Paul parle dans une situation particulière qui était celle de l'église de Corinthe, dans laquelle il y avait des dissensions, des disputes, des gens qui s'excluaient en quelque sorte les uns les autres, qui se jugeaient les uns les autres. Et Paul n'écrit pas sa lettre de Corinthe pour tous les chrétiens, dans tous les temps, dans tous les lieux et partout, mais il écrit pour les Corinthiens. Et là, il avait un problème particulier qui était de rassembler cette communauté, de rassembler cette Église pour inciter les gens à se supporter les uns les autres et à s'accepter les uns les autres. Par conséquent, Paul, déjà là, a un rôle particulier et il faut donc le retransposer, je dirais, pour aujourd'hui, en disant ce texte de Paul nous disant que l'Église est le corps du Christ ne doit pas être utilisé pour justifier une organisation forte de l'Église qui imposerait son pouvoir, alors que, au contraire, je pense que ce texte a un sens tout à fait opposé. Il vise à faire admettre une certaine diversité dans l'Église et à faire admettre que dans l'Église, il y ait de la place pour tout le monde et qu'il n'y ait pas de modèle unique de chrétien auxquels chacun doive ressembler. Mais personne ne peut même prétendre être au-dessus des autres, puisque chacun est important pour l'Église. En ce sens, plutôt que de militer pour une sorte d'uniformité de l'Église, comme c'est souvent fait dans l'utilisation de cette affirmation de Paul, où l'on nous dit que si l'Église est le corps du Christ, la diversité des églises dans le monde est un scandale, comme si c'était une manière d'éclater le corps du Christ, de l'écarteler, parce que le corps du Christ ne peut pas être éclaté dans différentes églises. Eh bien, ce n'est pas cette lecture que l'on doit faire, bien sûr, parce que quand on parle d'église, il ne s'agit pas de parler d'institution, mais de l'église qui est l'ensemble des croyants, et que l'ensemble des croyants est justement fait de gens différents, et de cultures différentes, et d'aspirations différentes. Il y a donc des chrétiens qui vivent leur foi d'une manière, d'autres d'une autre manière, et tout cela est très bien. Et c'est l'ensemble de cette diversité multicolore, je dirais, des chrétiens, dans lequel aucun ne peut prétendre être à lui seul l'incarnation du christianisme. Eh bien, c'est dans cette complémentarité des chrétiens et de la diversité des christianismes dans le monde que nous avons une image de la présence du Christ. Donc la question, c'est bien celle-là, c'est de savoir ce que l'on entend par Église. Et l'injustice avec laquelle on utilise cette affirmation que l'Église est le corps du Christ vient du fait que l'on plaque sur cette affirmation une conception moderne de l'Église qui serait une institution. Et donc on se demande, quelle Église est le corps du Christ ? Est-ce que c'est l'Église catholique romaine ? Est-ce que c'est l'Église réformée de France ? L'Église luthérienne ? Est-ce que ce sont les Arméniens, les Coptes, les Baptistes, les Pentecôtistes ? Et je ne sais quelle Église chrétienne encore ? Mais en fait, il ne s'agit pas de cela. Parce que quand Paul dit l'Église est le corps du Christ, je ne crois pas qu'il faille comprendre dans son propos qu'il s'agisse d'une institution. Il ne s'agit pas d'une institution, pas du tout. Il ne s'agit pas d'une organisation humaine avec ses ors, ses pompes, ses pasteurs, ses cardinaux, ses églises, ses liturgies, ses rites, ses sacrements et toutes ces choses-là. Mais l'Église, c'est une communauté. L'Église, c'est une communauté, c'est-à-dire c'est l'ensemble des croyants. En ce sens, je suis d'accord pour corriger ma conception individualiste et de dire d'accord, effectivement, tout le monde ne peut pas tout faire et nous ne sommes pas tous capables de tout faire tout bien comme le Christ et d'être aussi parfait que lui. Et donc, dans la communauté des croyants au sens large, dans cette Église invisible, comme on le dit dans l'Église réformée, qui n'est pas une institution, mais qui est l'ensemble de ceux qui mettent leur confiance dans le Christ, dans cette communauté des croyants, personne n'a l'obligation, je dirais, de tout faire. Et donc, il ne faut pas mettre la barre trop haute en se mettant une vocation impossible à atteindre, ni même juger ceux qui s'engagent moins que nous ou qui s'engagent différemment de nous. Il n'y a pas un modèle de bon chrétien, il n'y a pas une façon de vivre sa foi dans le Christ, mais chacun peut être différent, chacun peut avoir des dons différents, et donc ce passage de Paul est un appel à la tolérance et à l'ouverture plutôt qu'à la fermeture, comme parfois il est fait à partir de là. Mais je crois qu'on peut aller même plus loin que cela, parce que l'Église du temps du Christ, effectivement, n'était pas un corps constitué. Et je ne pense pas qu'il y ait dans l'idée de Paul de justifier ou d'encourager l'idée d'une Église comme un corps constitué, comme pourrait l'être aujourd'hui l'expression du corps des officiers, ou comme l'on parlerait d'un corporatisme. Il ne s'agit pas d'une organisation ou de quelque chose de fermé, mais au contraire d'une réalité infiniment ouverte et même, d'une certaine façon, indéfinissable. Donc la question, oui, c'est bien celle-là, c'est finalement, qu'est-ce que l'Église ? Alors on peut revenir à l'étymologie. C'est toujours assez instructif de revenir à l'étymologie. Et l'on sait en particulier que le mot « Église » vient du grec « ecclesia », lui-même venant de « ekkaleo », ce qui veut dire « être appelé hors de quelque chose ». De même, en hébreu, la première communauté chrétienne s'appelait une kehila, c'est-à-dire une communauté. Ça vient de kahal, qui veut dire proclamer. Donc l'Église, c'est ceux qui sont appelés, c'est ceux à qui l'on proclame quelque chose. À partir de là, je prolongerai ma réflexion en disant « Mais qui est appelé ?» Là, ma réponse serait a priori très claire, c'est que tous sont appelés. En effet, je n'imagine pas que Dieu laisse de côté quelqu'un, que Dieu en appelle certains et n'en appelle pas d'autres. Dieu appelle tout homme, Dieu appelle chacun à le suivre. Et comme Paul le dit dans une autre de ses lettres, Dieu prédestine tout homme à être semblable à l'image de son Fils. Dieu appelle chacun et Dieu ne laisse de côté personne. Par conséquent, l'Église, ce n'est pas la communauté des croyants, mais c'est la communauté des appelés. Et cette idée de considérer l'Église comme ceux qui sont appelés est une idée très belle et très forte qui consiste à centrer l'Église sur la grâce de Dieu plutôt que sur la foi des hommes. L'Église, c'est les hommes qui sont appelés et ce ne sont pas seulement ceux qui ont répondu à cet appel. En ce sens, je suis très heureux aussi que dans notre Église réformée, nous baptisions les bébés. Et il y a là une différence par rapport aux églises qui ne baptisent que les adultes, c'est-à-dire qui font du baptême, qui est normalement le geste par lequel on entre dans l'église, par lequel on est accueilli dans l'église. Eh bien, certains font du baptême quelque chose qui suppose la profession de foi, C'est-à-dire que l'Église, c'est l'ensemble de ceux qui ont dit leur foi en Jésus-Christ, de ceux qui ont cru. Alors que dans l'Église réformée, nous disons l'Église, elle est ouverte à ceux qui sont appelés, même s'ils n'ont pas encore professé leur foi, comme les petits bébés n'en ont évidemment pas la possibilité. Mais chaque enfant, comme chaque être humain, est un être humain appelé qui reçoit une vocation de la part de Dieu d'aller sur un certain chemin qui est un chemin de vie, de pardon, d'amour, de paix et qui est le chemin du royaume. Par conséquent, l'Église est centrée sur l'appel et non sur la réponse de l'homme. Et il n'y a aucune restriction au fait qu'un bébé puisse recevoir le baptême. Tout enfant peut être baptisé parce que tout homme est appelé et tout homme est invité et est convoqué à aller dans la présence du Seigneur. L'Église n'est donc pas le corps, la communauté des baptisés, la communauté des croyants, je dirais, ou de ceux qui confessent leur foi, mais, voyez-vous, l'on peut entendre le mot « Église » au sens le plus large possible en disant « Cette Église qui est le corps du Christ, c'est finalement, allons-y, l'humanité tout entière. C'est l'humanité tout entière, c'est toute l'humanité qui est le corps du Christ. » Et ce n'est pas pour parler d'organisation, une fois de plus, mais c'est pour dire qu'il y a une solidarité fondamentale dans l'ensemble de l'humanité. Les humains sont tous membres d'un même corps et par conséquent, ils sont tous dépendants les uns des autres et tous solidaires les uns des autres. Personne ne peut se penser indépendamment des autres et individuellement par rapport aux autres. Mais si moi je veux faire mon bonheur, je ne peux pas être heureux tout seul tant qu'il y a à mon pied des gens qui souffrent et qui pleurent. Et je ne peux pas profiter de ma richesse et de mon opulence tant qu'il y a à ma porte quelqu'un qui meurt de faim ou même à une heure d'avion de là, quelqu'un qui est dans la misère. Parce que l'humanité est un corps et c'est un corps comme un organisme. Et lorsque l'ensemble du corps, dans l'ensemble du corps, il y a une partie qui est malade, lorsque dans l'ensemble du corps, il y a un membre qui souffre, c'est l'ensemble du corps qui est malade et qui souffre. Et ce sont tous les membres, comme le dit Paul, qui souffrent. Et donc, il peut y avoir dans cette affirmation de Paul que l'Église est un corps, que l'humanité dans son ensemble est une sorte d'organisme cohérent dans lequel chacun a sa place, dans lequel chacun a une place qui lui est particulière et dans laquelle personne ne peut disputer à l'autre le droit ou le non-droit de faire partie de ce corps. Chacun y est comme il est, avec sa nature, sa dignité et ce qu'il sait faire, comme il est, et nous n'avons pas à juger de savoir si l'un est plus grand ou plus petit que l'autre. Il y a une confirmation de cela dans l'Évangile. C'est en Matthieu 25, dans ce que l'on appelle le jugement des nations. Là, en effet, le Christ est donc dit à ceux qui sont élus, « Venez, vous, parce que j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, etc. » Et ceux qui sont élus disent, « Mais Seigneur, nous ne te connaissons même pas, disent-ils à Jésus, comment t'avons-nous donné à boire ou t'avons-nous visité ?» Et Jésus dit, « Chaque fois que vous l'avez fait au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Autrement dit, le Christ s'identifie au plus petit d'entre les frères humains, au plus petit d'entre les humains. Jésus ne dit pas, « Chaque fois que vous avez donné à manger à un bon croyant, c'est comme si vous me l'aviez fait à moi. » Il ne dit pas, « Chaque fois que vous avez reçu un bon chrétien qui professe bien sa foi et qui croit bien dans la Trinité et dans toutes choses, c'est moi que vous avez reçu. » Mais le Christ s'identifie avec le corps, avec la personne de tous les humains et jusqu'au plus pauvre. Et par conséquent, c'est bien cela, le corps du Christ, c'est l'humanité tout entière. Mais néanmoins, peut-être, cette vision est-elle quand même un peu trop large et un peu trop étendue. Et faut-il être honnête de reconnaître que la notion d'Église dans le Nouveau Testament ne peut pas désigner l'ensemble de l'humanité. L'Église, ce sont certes ceux qui sont appelés, mais peut-être devrions-nous dire que l'Église, c'est plutôt ceux qui se sentent appelés. Et que le fondement de la vie de chrétien, c'est justement de se sentir appelé et de vivre comme étant sous l'importance d'un appel qui nous est donné et qu'on appelle, que l'on nomme la vocation. La vocation, ce n'est pas réservé aux infirmières, aux pasteurs ou aux pompiers, mais la vocation, c'est pour tout être humain. Et de comprendre que être chrétien, ce n'est pas nécessairement avoir répondu parfaitement à l'attente de Dieu, mais c'est accepter d'être sous l'appel de Dieu, accepter d'être dans une dynamique qui est créée par une volonté de Dieu à notre égard, qui nous invite à avancer, qui nous aspire vers l'avant et vers la vie, vers l'amour et vers le pardon. Ensuite, on fait ce qu'on peut, bien sûr. Et donc l'Église, c'est l'ensemble de ceux qui se sentent appelés par quelque chose, par cet idéal que l'on trouve dans l'Évangile. Et en ce sens, le corps du Christ, ce n'est évidemment pas l'Église en tant qu'institution. Le corps du Christ, c'est l'ensemble de ceux qui se sentent appelés par le Christ et appelés par Dieu. Et même un athée qui fait du bien et qui se sent ému par cet appel de l'amour, d'aimer et de pardonner, il participe au corps du Christ. Comme dit Jésus, « Qui n'est pas contre moi est pour moi ». Cela dit, Paul ne dit pas simplement que l'Église est un corps pour dire qu'il y a une sorte de solidarité entre les humains ou entre les croyants, mais il dit que l'Église est le corps du Christ. Et il y a donc un lien essentiel et fondamental qui doit être fait avec le Christ lui-même, et c'est en ce sens que l'Église va, je dirais, se démarquer par rapport à l'ensemble de l'humanité, c'est par ce lien qu'elle peut avoir avec le Christ. Alors quel est ce lien? Il peut être de deux natures. Soit l'on dit que l'Église, c'est le corps du Christ, plutôt c'est un corps dont le Christ est la tête. Et alors nous sommes tous membres, exécutants, je dirais, du Christ, et le Christ est le pilote, il est celui qui gouverne, qui oriente et qui ordonne. Et du coup, il faudrait comprendre que ce qui donne son sens à l'Église, c'est son lien au Christ. Et ce n'est pas le lien entre les hommes. L'Église est le corps dont le Christ est la tête, et c'est par ce lien que nous avons au Christ que nous formons un corps et que nous formons une entité cohérente. Et là, il est important de le rappeler, parce que trop souvent, les hommes ont tendance à penser que ce qui donne sens à une Église, ce sont les liens entre les hommes, c'est-à-dire les rites, les sacrements, la hiérarchie, les organisations humaines, les pratiques religieuses. Mais tout cela, ce n'est pas la relation au Christ. Tout cela, ce sont des organisations internes. Et l'Église se définit par rapport au Christ, c'est-à-dire par rapport au lien avec l'Évangile et avec cette parole fondamentale qui est première et qui est constitutive de ce que doit être l'Église. L'autre solution, c'est de considérer que l'Église est le corps du Christ, c'est-à-dire que c'est le nouveau corps du Christ. En effet, l'on sait que Jésus, quand il meurt, est mis au tombeau et à Pâques, l'on dit que le tombeau est vide et donc il n'y a plus de corps. Ou alors, si l'on croit à la résurrection, nous dirons, même s'il y a un corps ressuscité, à l'ascension, le corps est enlevé. Donc de toute manière, que ce soit tout de suite ou un peu plus tard, après Pâques ou après l'ascension, il n'y a plus de corps du Christ. Alors, qu'est devenu le corps du Christ? La réponse est de dire que ce corps du Christ, eh bien, c'est les croyants qui doivent en tenir le rôle. C'est-à-dire que le Christ s'incarne dans ceux qui croient en lui et qu'il y a là un nouveau mode de présence du Christ par le fait de ceux qui vivent son évangile. Le corps, dans la Bible, a une conception relativement instrumentale. C'est-à-dire que c'est par mon corps que je peux agir dans le monde, que je peux être dans le monde, que je peux avoir une parole dans le monde. Et par conséquent, quand on se demande ce qu'est le corps du Christ, eh bien nous devons dire que c'est l'ensemble des croyants et que ces croyants sont aujourd'hui la manière privilégiée avec laquelle le Christ peut aimer dans ce monde, avec laquelle il peut guérir, avec laquelle il peut pardonner, avec laquelle il peut encourager et donner le pardon et la grâce. Par conséquent, l'Église, la communauté des croyants, a une responsabilité tout à fait fondamentale dans ce monde. Maintenant, tout ce discours de Paul sur la diversité des membres doit être justement peut-être pour alléger cette espèce de poids infini de la vocation qui nous est donnée lorsque l'on nous dit que nous devons être le mode de présence du Christ dans le monde. parce que cette vocation peut nous sembler trop lourde à porter, trop inatteignable. En effet, je suis, moi, imparfait, incapable de jouer le rôle du Christ. Mais heureusement, Paul nous dit, mais écoutez, ce n'est pas très grave. On ne vous demande pas d'être aussi parfait, aussi grand, aussi aimant, aussi extraordinaire que le Christ. Mais vous êtes une petite partie du Christ. Et il y a là cette bonne nouvelle fondamentale qui est que la communauté des croyants a justement cette solidarité positive qui fait que l'on ne demande pas à chaque croyant de tout faire, mais que dans son ensemble, les croyants peuvent faire beaucoup. Et donc moi, peut-être que je ne suis pas un membre très important de l'Église, peut-être que je ne suis qu'un doigt de pied du Christ, ou même une rognure d'ongle ou un cheveu, mais peu importe, je suis quand même participant au corps du Christ. Et en ce sens, je remplis ce rôle extraordinaire de la vocation qui m'est donnée par Dieu d'être le mode de présence du Christ dans le monde. La présence de l'Église est une bonne nouvelle parce que oui, je ne suis pas seul et qu'à plusieurs, nous pouvons faire ce que tout seul, je serais incapable de faire. Cette diversité des membres n'est donc pas une excuse, moi, pour en faire moins, mais une bonne nouvelle pour me rassurer par rapport à ce que je sais être capable de faire ou de ne pas être capable de faire. Ce qui fait que, quand Paul dit « Vous êtes le corps du Christ », tout à l'heure je disais que sans doute je m'étais trompé en disant qu'il fallait l'entendre individuellement, et pourtant je crois qu'il faut l'entendre individuellement comme notre vocation. Notre appel fondamental, c'est de dire « Moi, je suis appelé à être le corps du Christ dans le monde tout entier ». Maintenant, la manière avec laquelle je réponds à cette attente, eh bien, c'est en fonction de mes moyens et de ce que je pourrais faire. Par conséquent, il y a un appel et il y a la réalité de ce qui est. Et il faut donc, je crois, garder ensemble ces deux conceptions, parce que Paul n'arrête pas dans ses épîtres de passer de l'individuel au collectif. De même, quand il dit « Vous êtes le temple du Saint-Esprit », eh bien, est-ce qu'il s'adresse à l'ensemble de la communauté qui est le temple du Saint-Esprit, comme si le Saint-Esprit résidait dans la communauté des croyants, ou est-ce qu'il s'adresse à chaque fidèle? Je crois que les deux sont vrais. Paul dit cela à chaque fidèle, et chaque fidèle est le temple du Saint-Esprit. Et en même temps, c'est l'ensemble de la communauté qui est le temple du Saint-Esprit, tant que l'on n'entend pas la part communauté ou église, une institution humaine qui n'a rien à voir avec ce dont il est question là-dedans. Et donc il y a ces deux dimensions qui permettent à l'homme d'être dans un chemin, à la fois avec un appel infini, qui est cette vocation que Dieu nous donne, et en même temps avec cette gloire extraordinaire que Dieu nous donne d'avoir la dignité de pouvoir être le corps du Christ. Et donc nous avons cette dignité qui nous est donnée, mais en même temps cette légèreté qui nous est offerte par cette belle parole de Paul qui nous dit que nous n'avons pas nécessairement à remplir entièrement ce contrat, mais simplement à nous sentir appelés par cette parole qui nous invite à être à l'image du Christ sur terre. Et pour le reste, n'ayez pas peur, parce que d'abord, vous êtes une communauté, une assemblée, vous n'êtes pas seul, mais vous avez des frères et des sœurs avec lesquels vous agissez, et c'est cette grande nuée de témoins qui elle-même va pouvoir agir dans le monde comme le Christ l'avait fait. Et d'autre part, vous n'êtes pas seul, parce que vous n'êtes pas un corps sans tête, mais ce corps, il a une tête qui est le Christ. Et donc, il y a cette présence extraordinaire du Christ qui se donne à vous et qui se donne à manger comme il a donné son corps à manger à la Pâque pour que nous-mêmes, nous devenions à l'image du corps du Christ. Dieu ne nous laisse pas sans viatique, je dirais, sans source, sans énergie, sans une origine nous permettant de remplir notre vocation, mais il nous donne cette présence du Christ qui est à la fois celui qui nous appelle à être le corps et celui qui se donne à nous comme étant son propre corps que nous pouvons mettre en nous pour ainsi vivre de la vie du ressuscité et accomplir cette mission qui nous est donnée comme nous le pourrons avec l'aide de Dieu. Amen.